France Inter.
Le cinéaste et metteur en scène Arnaud Desplechin a mêlé épisodes autobiographiques, exercices d'admiration et obsessions intimes dans sa filmographie dont je ne citerai que quelques titres. Comment je me suis disputée, ma vie sexuelle, Roi et Reine, La Sentinelle, Un conte de Noël ou Tromperie. Son alter ego au nom joycien Paul Dédalus apparaît aussi bien dans ses films, interprétés par différents acteurs, selon les périodes de vie mises en scène, que dans sa déclaration d'amour au cinéma, réalisée l'année dernière, le documentaire onirique intitulé « Spectateur ». Arnaud Desplechin met en scène ce qui l'effraie et ce qui l'exalte. Des situations d'amour impossibles, ça l'est toujours, des rapports conflictuels, des introspections douloureuses, des sentiments de honte ou des haines de soi guidant vers l'autodestruction. Son dernier film, De Piano, ne déroge pas à la règle en s'intéressant au retour en France après une longue absence de Mathias Vogler, talentueux pianiste écorché vif, incarné par François Civil. Il retrouve à l'Auditorium de Lyon une grande pianiste et ancienne mentor, Elena, jouée par Charlotte Rampling, qui a souhaité qu'il revienne pour l'accompagner lors d'un concert hautement symbolique dans sa carrière. Mais Mathias n'est pas le plus fiable ou le plus courageux des mousquetaires. Il aime l'alcool, arrive en retard, peut s'évanouir d'émotions et contrer toute ambition. Il est surtout amoureux de la femme d'un ami, Claude, Nadia Tereskiewicz, et se met à suivre un enfant qu'il prend pour son double. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure. Eva Bester.
Bonsoir Arnaud Desplechin.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
La dernière chose qui m'a enthousiasmé, c'est hier soir, tard dans la nuit, je suis rentré, j'étais à l'anniversaire d'un ami, qui est réalisateur aussi, qui s'appelle Uri Milstein, et je suis rentré, il y avait Madame Hoffman qui passait à la télé, que j'avais raté, qui est un film de Sébastien Lifshitz, dont j'adore Adolescente, et j'avais raté Madame Hoffman.
C'est sur l'infirmière
Sur l'infirmière qui va bientôt prendre sa retraite. Et les larmes sont montées aux yeux, les rires me sont montés à la gorge, et j'ai vu ça jusqu'à la fin, je me suis couché horriblement tard, et me voilà devant vous.
Oui, c'est un très beau film, on l'avait reçu à cette occasion. Vous dites que votre position politique, c'est la fuite. Et j'aimerais savoir ce qu'il en est dans les autres champs, parce que j'ai l'impression que vos héros fuient souvent dans vos films, en amour notamment.
Dans ce film-là...
Pas celui-là, non, en général.
Est-ce que mes héros fuiront ? Ils ont quand même de la bravoure parfois d'affronter. Mais la fuite, c'est pas si mal. Si, c'est très bien. Je pense au dernier. Je pense au paysage politique mondial dévasté. Veillez, on est horrifié quand on lit le journal le matin. On est terrifié par tout ce qui est de ça. S'enfuir, c'est pas mal quand même. C'est une solution possible de refuser de jouer à un jeu qui nous sera imposé.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
Je m'en pardonne, madame. Je crois que vous lisez mon télégramme.
How do I know it's yours? Can you identify yourself?
Well, I am Michel Marnet.
Oh, don't tell me you're the fella.
Well, it's rumored that Michel Marnet sails for America tonight.
Le célèbre spokesman s'embarque ce soir.
When he arrives, Michel Marnet goes out of circulation. This time, it's Mary.
Affaire.
Exactement, vous avez reconnu tout de suite Love Affair de Léo McCarré dans la première version en noir et blanc, celle que vous aimez, Arnaud Desplechin.
Oui.
Vous sortez le film De Piano, on va expliquer pourquoi, mais que vous avez écrit avec Kamen Velkovski, un Américain rencontré sur Jimmy Pay, qui vous a apporté le deuxième conte qui vous a influencé pour cette histoire.
Mm-hmm.
Pouvez-vous nous raconter les deux et nous expliquer pourquoi on a entendu ce film ?
C'est parce que souvent je choisis des titres de projets qui ne sont pas les titres de films, ils ne marchent pas pour un film, ça ne marcherait pas, c'est trop cryptique, etc. Et là, on cherchait un titre, Kamen et moi, pour nous retrouver, bientôt rejoint par Ondine Loriot-Diprévost qui nous a aidé, je vous raconterai pourquoi. Et donc, je cherchais un truc comme un manifeste, si vous voulez. Et donc, on appelait ça Un Affaire. Et alors, Un Affaire, c'est comme Un Affaire to Remember, le film de Léo McCarré. Mais Un Affaire, en anglais, c'est une histoire extra-conjugale. Alors, en français, on pouvait comprendre qu'ils font des affaires financières, etc., ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, nous, ça nous allait. Un Affaire, c'était revendiquer le mélodrame, revendiquer l'essentiel sentiment, les cœurs brisés, revendiquer l'amour impossible. C'est une histoire d'amour impossible. Et là, après, il a fallu trouver le titre. Et le titre, c'est finalement, on s'est dit, comme c'est au début, vous racontiez, Mathias revient pour faire un concert à deux pianos avec Charlotte Rampling. Alors du coup, deux pianos, c'est un peu imposé. Et puis comme en même temps, c'est le portrait d'une femme qui hésite entre deux hommes, d'un enfant qui hésite entre deux pères, que Lyon et la vive de deux fleuves, on trouvait que deux pianos, ça sonnait bien, quoi.
Et alors, justement, Charlotte Rampling qui joue Elena, l'ancienne mentor de Mathias Vogler, je crois qu'il y a eu un problème. Un moment, c'est qu'elle s'était tellement fondue dans son personnage qu'elle vous a dit une phrase que vous avez adorée.
Je vous laisse le raconter. Oui, je ne sais pas si elle se... Est-ce que Charlotte se fond dans ses personnages? Elle a tellement d'humour, elle est tellement drôle. Je ne sais pas si elle se fond dans le... Quand elle joue, elle joue.
Mais elle a dit « Je suis Elena » et il y a un problème.
Elle m'avait écrit quand elle a eu de la dernière version du scénario. Elle m'a écrit « Arnaud, on est devant un très gros problème. Je ne suis pas le genre d'actrice qui change une virgule ou un mot de son dialogue. Mais à la scène 76, je dis « J'ai peur. Or, je suis Elena. Or, je n'ai jamais eu peur. » Et là, j'ai trouvé ça formidable. Alors, il y a une petite vidéo qui circule sur Internet, qui est vachement bien, avec une pianiste, Pires, que je lui ai montrée. Donc, cette pianiste merveilleuse qui est en train de faire un concerto pour un piano de Mozart. Et elle se rend compte au début qu'elle n'a pas la partition. Alors elle regarde désespérée le chef d'orchestre en pensant « Non mais là on va pas jouer, j'ai pas la partition » parce qu'ils sont gourrés de partitions. Et le chef d'orchestre lui fait signe « Si, si, ça va aller, ma petite Pires, etc. » Elle dit « Mais non, là je démissionne, j'arrête toute la vie. » Alors je montre la vidéo, Charlotte regarde ça absolument fascinée, elle dit « Ah oui, mais ça c'est la terreur, je connais. » Et vous voyez, du coup on cherchait le vocabulaire approprié.
C'est mariage au Pires ?
Oui, c'est ça.
Ouais, très grande pianiste. Le premier échange de Mathias avec Elena, il lui dit « Je t'ai déçu ». Elle dit « Bien sûr que tu m'as déçu ». Et il dit « C'est ce que je fais de mieux dans la vie ». Alors la question est la suivante, avez-vous beaucoup déçu ?
Ah oui, bien sûr, évidemment, il faut décevoir, c'est nécessaire. Oui, bien sûr, il faut décevoir. Les histoires drôles, quand vous commencez une histoire drôle, vous dites, ça va vous... Non, il faut tout de suite dire, non, je vais vous décevoir, l'histoire drôle ne va pas vous faire rire, sinon ça ne va pas marcher. Oui. C'est comme l'histoire de Nadia qu'elle raconte au cimetière.
Oui, elle
déçoit,
elle
déçoit, voilà, c'est le râteau complet.
Est-ce que vous vous êtes déjà déçu vous-même?
Oui, mais c'est pour ça que je fais des films, vous voyez, parce que bien sûr, je me déçois quand je me réveille, mais quand je travaille, peut-être c'est un trait que je peux avoir en commun avec Charlotte, c'est que quand je travaille, je pense à rien. Je suis juste heureux mécaniquement. Vous voyez, je pense à... J'ai fait un film qui s'appelait Esther Kahn, et à un moment, on voit une très jeune enfant, cette petite fille anglaise, et elle est sur un toit avec ses frères et sœurs qui sont bien méchants avec elle, et il lui souffle des bulles de savon, et elle est comme un petit chien, elle mord les bulles de savon. Bon, moi, c'est ça, c'est moi sur un tournage. Voilà, j'adore ça. Donc quand je travaille, je me pose pas la question si je me déçois ou si je me déçois pas, et ça, c'est hors de moi, c'est j'ai tellement de plaisir à parler avec un directeur de la photographie, une directrice de la photographie, à parler avec des acteurs, un décorateur, et ça c'est tellement amusant, tellement amusant.
Et la partie solitaire de l'écriture?
Heureusement, je ne travaille pas seul. Je travaille avec donc Kamen. Mais alors Kamen est américain et il ne parle pas français. Et moi, je parle très mal anglais. Alors, vous voyez, ça faisait des dialogues de sourds. Et donc, on écrivait le dialogue en anglais. Et à un moment, il a fallu l'adapter. Et j'ai rencontré une jeune femme qui sortait de la Fémis, qui s'appelle donc Ondine Loriot-Prévost, qui est absolument formidable. On a adapté le scénario anglais. On l'a adapté à la France et à Lyon. Et alors avec elle, évidemment, comme elle est extrêmement drôle, très très spirituelle, on inventait des blagues tout le temps, quoi. Elle me disait « Refais-moi Max ». Alors je refaisais Max, qui est le rôle tenu par Hippolyte Girardot, etc. Elle disait « Oui, mais t'avais un truc mieux quand même quand tu faisais Elena, etc. » Alors on avait des séances d'improvisation très très drôles. Alors vous voyez, dans ces moments-là, je ne peux pas me décevoir, pas me décevoir. J'essayais de faire rigoler Ondine, Ondine essayait de me faire rigoler, et puis voilà tout, quoi.
Et alors là, Lyon, pas à Roubaix, dans ce film?
Ah non, je me suis échappé. Vous voyez, la fuite, il faut s'enfuir, et bien sûr, il faut s'enfuir.
I want you to talk to me about May. Are you very much in love with her?
As much as a man can be.
Do you think there's a limit?
In a time of tradition. In a place of privilege. Newland Archer lived his life by the rules of his society.
I want everybody to know.
What?
That we're engaged.
Until he met a woman who lived by her own rules. The Age of Innocence, the Martin Scorsese picture.
Arnaud Desplechin, je rappelle que vous avez dissous l'ancienne Fémis Lydek de Führer à cause de Raging Bull que vous, élèves, adoriez contrairement à vos professeurs. Et là, on entend Le Temps de l'innocence de Martin Scorsese qui vous a inspiré de nouveau, qui est votre film de chevet, si c'est possible, et notamment pour le personnage de Claude.
Oui, c'est vrai, parce que c'est une histoire d'amour. C'est adapté de Edith Wharton, qui est une romancière qui me met à genoux.
Ah non, c'est
c'est trop bien. Edith Wharton, c'est pas trop bien.
Ah non, mais si on veut se suicider, oui.
Oh non, non, il y a un appétit. Oui.
Oh non.
Mais en fait, je sais pas, elle était très amie avec Henry James, et moi, j'ai jamais compris les livres de James, et par contre, je comprends dans la seconde, livre d'Edith Wharton, dans la seconde, je comprends. Alors, voilà. Alors, je n'ai pas le goût snob, vous voyez, je suis pour Edith Wharton, parce que James continue à me rester opaque. Et alors, c'est une histoire d'amour impossible, et le personnage de Claude, mais aussi le personnage de Mathias, parce qu'il y a Daniel Day-Lewis qui joue le rôle, qui a tombé par terre, il a des mains, il joue de ses mains comme ça, et il joue un homme embarrassé de lui-même, un peu sous la cendre, comme ça, alors que la femme, elle est flamboyante. Et alors là, le couple se retrouve en position inversée, c'est-à-dire que Claude, joué par Nadia Tereskevitz, elle s'empêche de vivre. C'est une femme qui a été... Vous voyez, elle a été l'épouse de Pierre, elle a été la mère de Simon, elle a été la belle-fille de ses beaux-parents, elle a été la fille de ses parents, etc. L'amie de Judith. Mais elle n'a jamais été elle-même. Le film va la mettre au pied du mur. Et le film, c'est comme s'il a secoué, qui lui dit « Mais réveille-toi, deviens-toi, t'es obligé, maintenant t'as plus le choix. » Et donc elle va devoir être elle-même. Et alors, dans Le Temps de l'innocence, ce film de Scorsese, l'homme n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, il renonce, quoi. Alors, il renonce, mais... Et dans mon film, c'est un peu différent, les gens, ils s'enfuient. Ce qui est mieux que renoncer.
Et ils s'empêchent.
Ah, mais les amours sont empêchés, mais tous les amours sont empêchés.
Alors... Je sais que c'est l'une de vos théories, mais alors je suis allée sur un site que j'adore, qui est la Cinéthèque, qui est la cinémathèque des réalisateurs. On peut louer des films sur ce site. Et alors, les réalisateurs sélectionnent leurs films favoris. Donc j'ai regardé ce qui figurait dans votre liste, Arnaud Desplechin, et donc j'ai regardé, grâce à vous, Gertrude de Dreyer, dans lequel l'héroïne dit « L'amour, c'est le malheur et la souffrance ». Et vous, vous dites « L'amour, ça ne marche pas ». Normalement, ça peut marcher dans la fiction, mais ça ne marche jamais chez vous.
Ben ça, parce que s'il y avait une phrase savante que je n'ai jamais compris de Jacques Lacan qui disait il n'y a pas de rapport sexuel, et il voulait dire, alors il y avait une autre phrase qui était drôle, qui est plus connue, enfin qui est tout aussi connue, l'amour c'est donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Il y a toujours ça marche pas. On croit que ça va marcher, on trébuche, on y arrive, on aime gauchement, on aime maladroitement, mais c'est cette maladresse qui est belle, c'est ça qui vaut la peine. Ça, évidemment que ça vaut la peine, ça vaut infiniment la peine. Par exemple, entre Claude et Mathias, évidemment qu'il ne s'était pas trompé. Bien sûr, il ne s'était pas trompé. Que ce soit impossible, qu'elle lui soit interdite, c'est une chose. Mais n'empêche que bien sûr que c'est la femme de sa vie, bien sûr, évidemment.
Mais j'ai l'impression quand même que beaucoup de vos personnages, dans plusieurs de vos films, font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas être heureux en amour. Êtes-vous un peu masochiste ?
Ah, moi, je ne le vis pas comme ça. J'arrive pas à le vivre comme ça. J'ai l'impression qu'ils connaissent des grandes joies. Je pense en particulier, c'est drôle, il y a un... Pierre Murat, comme ça, qui m'écrivait hier, il avait vu le film en avant-première, et là, il m'écrivait et il me disait, mais alors pourquoi il y a une étreinte comme ça dans un hall, une étreinte passionnée comme ça, entre et un peu osée comme ça, entre Claude et qui tout d'un coup se découvre audacieuse comme ça avec Mathias. Alors, il disait, est-ce que c'est vraiment la psychologie? Et je disais, mais... À la porte, la psychologie. Vous voyez, il faut qu'il brûle, évidemment, que Claude, elle brûle. Et tout d'un coup, évidemment, qu'elle est audacieuse, qu'est-ce qu'il voulait? Ils s'entendent bien au lit. Évidemment qu'ils sont heureux. Alors, après, ils vont en payer le prix, mais n'empêche qu'ils sont heureux quand ils sont au lit.
J'avais peur que quelqu'un entre à ce moment-là dans le hall, pour tout vous dire. Dans Gertrude, un ancien amant écrit « L'amour de la femme et le travail de l'homme sont ennemis ». Qu'en pensez-vous?
Oh, je trouve ça un tout petit peu daté quand même. Non, parce que l'amour des hommes et le travail des femmes, alors il faudrait retourner la phrase pour regarder.
Alors, si on enlève les sexes, est-ce que l'amour et le travail s'opposent?
Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Je crois pas.
Ça a été des sources d'inspiration pour vous, l'amour?
Ouais, mais avec tellement de filtres. Mmh. Tellement de filtres, quoi. Il faut énormément filtrer, quoi. Et puis. C'est dans quel film que j'ai vu récemment, ou dans quelle pièce que j'ai vu récemment, comme ça, les personnages aussi... Ah non, c'est ça, c'était dans un texte de Duras, où les personnages sont tellement amoureux des romans qu'ils ont lus et des films qu'ils ont vus, qu'ils savent plus, voyez, si ce qu'ils font, c'est pour imiter ce qu'ils ont lu dans le livre qu'ils ont lu la veille, ou si c'est parce que c'est la personne aimée qui leur inspire cette action ou ce sentiment.
vous rendez justement l'amour si romanesque. Est-ce que vous êtes déçu par lui dans le réel? Parce qu'il est grotesque en comparaison de la façon dont vous le sublimez dans vos films.
Moi, je trouve que l'amour, dans tous les sens du terme, enfin, l'amour, hein, pas l'amitié, l'amitié aussi, mais c'est le livre que Nadia montre à son fils. Quand elle dit, voilà, c'est le premier livre que Pierre m'a offert quand on est sortis ensemble. C'est L'amour et l'amitié de Alan Bloom, qui est un livre que j'adore. Et l'amour, moi, je pense que c'est un moyen de connaissance, de connaître le monde. Pas la personne aimée. La personne aimée, elle nous restera toujours opaque. Mais c'est un moyen de connaissance, pour moi, très certainement. C'est un des trucs intellectuellement les plus inspirants, quoi, les plus intéressants.
Et vous ne le trouvez pas décevant dans le réel par rapport
à... Ah non, pas du tout, pas du tout.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Qu'est-ce que tu allais faire à l'autre bout du monde? T'es trop doué pour ça.
Redis le plus fort, ça, s'il te plaît.
T'es tout seul.
J'ai vu Pierre. C'est merveilleux de te voir, ça fait combien d'années?
À l'époque, je vous aimais tous les deux.
Et t'as triché. J'ai vu Pierre. C'est merveilleux de te voir, ça fait combien d'années?
À l'époque, je vous aimais tous les deux.
Et t'as triché.
Non.
Ce soir, tu vas jouer pour moi. À ma place.
Non.
Je vais arrêter.
Je peux pas vivre avec ça.
Tu vas apprendre.
Qu'est-ce que t'attends?
Arnaud Desplechin, on entend la bande-annonce de deux pianos en salle depuis ce matin. Parlons du personnage principal, Matthias Vogler, qui est pianiste peu fiable, qui hurle sous dans la rue avec 3,5 grammes et qui insulte tout le monde. Ça, je crois que c'est pour montrer un peu ses origines que vous montrez ça, qu'il peut devenir très violent oralement quand il est sous.
Ben, c'est un peu l'histoire d'une... Parce que le film commence pas avec Matthias, le film commence avec Claude, la femme aimée. Et Claude, on voit, elle traîne comme ça chez elle, ils sont invités à une soirée, elle et son mari, Pierre, qui est joué par Jérémy Lewin, qui est formidable.
Irrésistible.
Irrésistible, Jérémy. Et elle a pas envie de sortir. Et c'est un peu le feu sous la cendre, quoi. Elle préfère être sous la cendre, elle préfère être cachée, elle préfère s'enterrer, etc. Et donc, et Matthias ont cherché à ce qu'il fasse un peu peur. C'est-à-dire qu'elle l'a connu il y a très longtemps, il y a 8 ans, plus que ça encore. Elle a connu très jeune femme, mais il lui faisait un peu peur. Alors que Jérémy était un peu plus rassurant. Alors on cherchait avec François, on pouvait tout ce qu'il pouvait rendre un peu massif. Alors par exemple, on avait trouvé un truc qui était très rigolo. S'il y avait des fers aux pieds, on lui avait mis des chaussures ferrées. Alors quand Matthias s'approche, on entend clac, 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 et ça lui fait un pas lourd. Vous voyez, c'est un homme lourd, pesant, quoi. Alors évidemment, il est totalement effrayant pour elle, pour cette très jeune fille, qui préférait se protéger de la vie et qui n'ose pas encore y entrer.
Alors ça m'a fait penser justement de choisir un amour par raison à un autre de vos films.
Paul Dédalus a 29 ans. Il est maître assistant en philosophie dans une faculté de la périphérie parisienne. Comme Paul s'est retrouvé à enseigner sans l'avoir voulu, il désire quitter ce travail provisoire depuis déjà 2 ans, mais n'y arrive pas. Il le désire assez pour n'avoir jamais passé les examens qui feraient de lui un professeur à part entière. Ainsi, il vit une moitié de vie avec un traitement modeste en attendant de commencer ce qu'il serait bien en peine de nommer, sans doute, sa vie d'homme. Paul habite avec son cousin Bob et il sort avec la même fille depuis 10 ans, Esther. Paul a rencontré une nouvelle fille il y a 2 ans avec qui il a eu une aventure. Il se trouve que cette fille est la fiancée de son meilleur ami. Comme Paul croit impossible de prendre une fille à un autre garçon, c'est là que ses problèmes commencent.
Bon, j'imagine que je ne vous surprends pas, Arnaud Desplechin, d'avoir trouvé des parallèles entre deux pianos et comment je me suis disputé ma vie sexuelle.
Non, bien sûr, j'écoute ce narrateur, c'est moi qui joue le rôle, je suis absolument d'accord avec lui, c'est pas possible de prendre une femme à un homme, c'est idiot, parce que c'est pas un objet. Et ça me rappelle une scène que j'aimais beaucoup, parce que en l'écrivant, je pensais que c'était comme un sequel d'un personnage que j'aime beaucoup, qui est Chiara Mastroianni dans Un conte de Noël. Et justement, qui dit ça, qui dit « je suis pas une vache, quoi, on me vend pas sur un marché, je veux m'appartenir à moi-même ». Et c'est drôle parce qu'il y a un côté inactuel dans le personnage de Claude. C'est ces femmes qui n'ont pas vécu pour elles, qui ont vécu pour pour leur conjoint ou pour leurs enfants, etc. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est très décrié. Alors j'étais touché quand je lisais le livre d'Emmanuel Carrère, le Décolco, ce dernier, qui parle de son père, qui aussi, par amour, il a vécu pour... Il adorait être le mari de sa femme.
Il était enfermé au fin fond du couloir, dans une chambre, dans une solitude terrible.
Voilà. Et ben, vous voyez, le film, il va délivrer Claude de ça. Et moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ces femmes un peu comme ça, retenues, parce que je pense qu'il suffit de trois fois rien pour qu'elles flamboient.
Mais il y a d'autres parallèles. C'est, par exemple, Paul Dédalus dit dans ce film « Je suis l'agent de ma chute ». Il fait des crises d'angoisse. J'ai pensé à vos personnages qui se sabordent dans Deux pianos. Puis il y a aussi un de ses professeurs qui a peur d'avoir Alzheimer. Dans Deux pianos, c'est Elena. Il y a quand même des leitmotifs comme ça. Des obsessions peut-être.
C'est des obsessions. À chaque fois qu'on fait un nouveau film, évidemment, je suis déçu. Je me déçois. Vous me demandiez si je me décevais. Je me déçois. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau film, on se dit, non, mais là, ils vont pas me reconnaître, etc.
Si, je vous ai reconnu.
Voilà. Et voilà. Et alors, des fois, il y a des gens qui ont de l'amabilité de me dire, je t'ai bien reconnu. On se dit, mince, faut que je refasse un autre film pour qu'ils me reconnaissent pas, etc. Je me déçois.
Vous aimeriez qu'on vous reconnaisse pas?
Bien sûr. Ce que je rêvais, vous voyez, maintenant je suis trop âgé pour en rêver encore. C'est pas vrai, j'en rêve encore. Vous voyez, c'était tous ces films d'action des années 90 où le nom du réalisateur, il était en tout petit, tout en bas, et il y avait le nom des vedettes. Voilà. Et quand je voyais, je disais voilà, ce que je veux, c'est ça. Je veux ça.
Et ça peut arriver.
Oui, j'aimerais.
Dans Comment je me suis disputé, il est beaucoup question de honte. De quoi avez-vous honte?
De vivre, bien sûr. Oui.
Pourquoi?
Parce qu'on porte un poids. Je sais pas, quand on écoute la radio, quand on lit des livres, tu sais, on parle de la culpabilité, tout ça. Est-ce que je me sens coupable de quoi que ce soit? Pas tant que ça, sûrement, comme tout à chacun, mais la difficulté, on porte la honte ou un sentiment qui m'embarrasse, comme ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin de m'ébrouer, dont j'ai besoin de me secouer.
On dirait presque une image du Jardin d'Éden, post-Jardin d'Éden, ce que vous décrivez.
Oui, bien sûr, oui, quand tout d'un coup, ils découvrent sa nudité, oui. Tous les deux. Oui, bien sûr, oui. C'est un thème hitchcockien, vous savez, c'est très... pas la honte de soi, mais la sortie du Jardin d'Éden. Je pense à Cary Grant dans La mort aux trousses, quand il se retrouve comme ça, il est dans les toilettes juste en sortant de la gare, et il doit aller se raser dans le truc, et il a un tout petit rasoir féminin que lui a donné Eva Marie Saint, et il se rase, et puis il y a tous les types qui le regardent avec un regard comme ça malencontreux, et il a honte de lui, pour une raison complètement saugrenue, je trouve ça formidable.
Il y a une question aussi qu'on retrouve dans votre film Roi et Reine sur la génétique ou le sang, sur la famille choisie. Est-ce que vous pensez que le sang et la génétique ne sont rien?
Ah, je pense que c'est rien du tout. Rien du tout.
Donc on peut s'affranchir du déterminisme biologique?
Je vois pas de déterminisme. Si vous voulez, le truc qui m'est apparu, peu à peu, pas tout de suite, mais si, ça m'est apparu assez vite, c'est je crois pas, j'aime pas l'idée, c'est pour ça que Catherine Deneuve, elle était toute contente et j'étais très très heureux qu'elle joue dans Un conte de Noël, c'est que c'était une femme qui n'arrive pas à aimer ses enfants. Et j'aime pas l'idée que les femmes soient des mères. Je connais des femmes qui ont adoré être des mères, mais il y a des femmes à qui arrivent des enfants. Alors c'est indéniable, quand on voit une femme, elle a le ventre rond, et voilà, elle va dire qu'elle va aller à la clinique, etc. Donc oui, effectivement, elle est enceinte, il lui arrive un enfant. Est-ce que ça en fait une mère pour autant? Pas du tout. Mais alors, quant à être un père, là, ça me semble une farce, vraiment une comédie, quoi. Et le trajet de Deux pianos, c'est qu'il y a cette femme qui est entre deux hommes, elle va donner son enfant ou à l'un ou à l'autre. Et c'est ça qui fera de cet homme un père. Et elle choisira... J'ai pas le droit de le dire parce que c'est la fin du film.
Ne le dites pas. Mais c'est vrai pour moi, c'est l'un des deux hommes qui est le plus maternel, entre guillemets, avec l'enfant du film. Et je ne dévoile pas pourquoi. À un moment, Elena, la mentor, la pianiste, prévient le héros. Tu es fait pour la guerre, tu vas répéter, tu vas souffrir. Est-ce que vous souffrez toujours en créant?
Pas quand je tourne.
Mais hors tournage?
Oui. Non, quand je travaille, non. J'ai tellement de chance. En écoute, oui, je trouve que c'est très douloureux de vivre. C'est quelque chose qui m'est difficile, mais j'ai la chance de faire un métier C'est pas du tout un métier. D'ailleurs, j'ai la chance de n'avoir. Vous savez, c'était le slogan de Guy Debord. Vous savez, ne travaillez jamais. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. Et je suis ravi de ça. Mais il y a des gens qui sont obligés de travailler. Donc, ils ont des vies beaucoup plus dures. Et moi, j'ai cette chance-là que je peux complètement oublier cette difficulté à vivre ou cette honte à vivre. Parce que dans le travail, vous voyez, par exemple, j'ai le trac. Je dois arriver et parler avec vous à la radio, et j'ai le trac. Et ben quand je tourne, je peux pas avoir le trac parce que les acteurs vont avoir le trac. Donc moi je l'ai plus du tout. Dès qu'ils arrivent, alors j'ai le trac horriblement le matin à 6h quand je les attends, et puis à 7h ils arrivent aux loges de maquillage, je vais les visiter et là le trac tombe parce que moi mon travail c'est de les protéger. Et c'est le plus beau travail qu'on puisse. Vous voyez, de protéger une actrice ou un acteur, c'est un travail merveilleux. Alors du coup, je pense plus à moi. Voilà, c'est comme ça. Mais sinon, oui, la vie, c'est vraiment très douloureux. Ouais. C'est pour ça que les films, c'est cool.
Oui, pas tous. Pas un film serait une adaptation de Ethan Frome d'Edith Wharton, j'irais pas le voir. Est-ce que vous partagez la mélancolie de votre personnage principal qui se met minable, qui se saborde, qui se détruit, qui est écorché vif?
Non, j'aimerais bien être aussi extrême que lui. J'arrive pas. Peut-être je suis trop raisonnable. Faut que j'apprenne à être déraisonnable. Non, j'ai pu être déraisonnable.
Vous l'êtes de moins en moins? Je me demandais justement, puisque vos personnages évoluent.
Non, par crise. C'est des crises. Il n'y a pas de progrès. Vous voyez, à la prochaine crise, il n'y aura pas de progrès.
Vous ne faites pas de progrès, vous n'êtes pas dans l'élévation.
Non, je crois pas qu'il y ait de progrès.
Ah bon? Pour personne?
Pour les gens. Non, je crois pas trop. À la notion de progrès, j'y crois pas trop.
Alors on stagne?
Non, on change. Oh, non, on change quand même. Ah, ben, c'est la même question que sur mes films. Vous voyez, j'essaie de me dissembler et puis les gens disent: ah, tu te ressembles. Donc, vous voyez, c'est la même question. Est-ce que je stagne, je change? C'est-à-dire que quand je fais un nouveau film, je me dis, je me dois de m'échapper de moi. Et en même temps, il y a une voix à l'intérieur de moi qui me dit « Oui, mais je dois être fidèle, pas à moi, mais au film que j'ai fait, et aux actrices et acteurs que j'ai aimés. Je dois être fidèle aux gens qui ont été émus par mes films. Je peux pas les renier, c'est pas possible. »
Vous êtes fidèle aussi à certains de vos acteurs. Là, je pense à Hippolyte Girardot qui fait Max, qui est l'agent de Mathias Vogler. Uh-huh. Alors, moi, je trouve que c'est un des personnages les plus sympathiques du film avec Pierre, le mari de Claude, uh-huh. parce qu'il est agent et chaperon en même temps. Mm-hmm. Comment vous êtes inspiré pour faire ce personnage incroyablement rassurant qu'on aimerait tous avoir dans sa vie?
Ah, il rattrape les coups. Formidable, formidable, oui. C'est comme Mathias, il est pris là. Il a une maman, Anne Kessler, qui est tellement étrange, comme s'il était un peu effaré par son fils, un peu comme ça, qui est un peu menaçant et bizarre, comme ça. Et puis, elle est presque amoureuse, comme ça, de son fils. Et il a Elena, qui a aussi un rapport d'amour et qui est sa mère, d'âme, d'art. Et il a une troisième maman qui est Max, et qui est la maman qu'on rêve tous d'avoir, quoi.
En fait, les mamans sont des hommes dans ce film.
Voilà.
Il paraît que vous donnez un secret à chacun de vos acteurs sur les tournages.
Oui, mais c'est pas un secret qui se verbalise, vous voyez. Ce serait facile. Pour Max, c'est facile. Par exemple, Max, il sait dans des choses, dans la façon de parler, quand on travaille avec Hippolyte, etc., dans la verve qu'il peut avoir. Il sait quelque chose du film et les autres pourront pas le faire. Il y a que Max qui pourra, il y a que Hippolyte qui aura cette verve-là, ce verbe haut, etc.
Et à un moment du film,
bah, François Civil, c'est encore différent. Max, par exemple, il le dit à un moment, il dit, des fois, faut laisser les choses foutre le camp. Voilà. Donc, il dit quelque chose que le film a scié, c'est cette politique de la fuite, comme ça. C'est lui qui l'a dit. Il n'y a aucun autre personnage du film qui le dit. Il n'y a que Hippolyte qui le dit parce qu'on en a parlé avant, parce qu'il le sait. Il sait qu'il vient apporter cette pierre-là. Et je pense à une actrice qui est merveilleuse, qui a un rôle très ténu comme ça, qui est Alba Gaya Bellucci. Et à un moment, elle dit « Le malheur, c'est une perte de temps ». Et voilà. Et ça, c'est super vrai. Et elle sait qu'elle vient apporter ça. Vous voyez, c'est cette pierre-là qu'elle vient apporter.
Mais est-ce qu'on peut le choisir, ça? On le sait que c'est une perte de temps, mais entre ce qu'on sait intellectuellement et ce qu'on expérimente?
Non, mais si on le sait, ça change toute la donne.
Mais non?
Ah, bien sûr que ça change toute la
donne.
Moi,
je sais que c'est une perte de temps, ça n'empêche pas d'être malheureuse, ça ne vous empêche pas non plus d'être malheureux.
Ah non, ça ne m'empêche pas. Mais sauf que j'y perds moins de temps. C'est un passage obligé.
Ah, ça raccourcit un peu quand même.
Ben, ça raccourcit, évidemment.
Ah bon, c'est pas mal. À quoi ressembliez-vous, petit?
Petit, je sais que j'étais malheureux assez jeune, pas à cause du cinéma, parce que je pensais que je pourrais pas rentrer à l'école de cinéma, parce que j'étais assez fier, parce que quand j'étais rentré en CE1, on m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, et je savais qu'il j'avais écrit IDEC avec le H, et je me souviens physiquement dans ma main de calligraphier le H de IDEC. Alors mon instituteur m'avait demandé ce que c'était, j'avais dit c'est l'école à Paris pour le cinéma. Je m'étais dit j'y rentrerai jamais. Alors j'étais chagrin, quoi. Je me disais ben voilà, ma vie va pas bien se passer. Je vais tenter le concours de cette école. Je savais pas encore que c'était un concours, mais je vais essayer de rentrer. Mais c'était loin, les distances n'étaient pas les mêmes. Vous voyez, pareil, c'était loin, pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, c'était pas le même monde. Et dans ma famille, mon père lisait, ma mère lisait énormément, et c'était formidable. Mais on connaissait personne dans le spectacle. Vous voyez, personne. Donc je me disais, je l'aurais pas. Et donc j'étais en deuil de ça. Vous voyez, j'étais en deuil de ça pendant très longtemps.
Alors, en parlant de famille et de deuil, je crois qu'il y a eu plusieurs jeunes veuves dans votre famille. Ça vous a aussi inspiré pour les personnages veuves que vous trouvez romanesques.
Je pense en particulier, j'ai une tante, je ne dirais pas son nom de famille, mais je dirais son prénom, c'est un prénom chéri, c'est Lily. Et je me souviens d'elle, je la vois enceinte comme ça, veuve, très jeune. C'est tellement impressionnant de la voir avec ses enfants. Et ça. C'est une femme très très belle, elle vit, et très très drôle. Extrêmement drôle, avec un humour ravageur comme ça. Elle fait encore des blagues sur son mari. Vous voyez, son mari se prénommait André. Et alors, du coup, quand mon père l'invite à manger, elle arrive et dit, et voilà, André n'est pas venu, comme d'habitude, une grossièreté inouïe. Il est mort il y a 40 ans, vous voyez.
Vous aviez aussi pour source d'inspiration Stendhal ou Friedkin. Tout vous inspire ?
Ben oui, c'est des petits outils. C'est de se servir de ce qu'on voit. On s'en sert pour mieux vivre, on s'en sert pour fabriquer des films.
Alors je pense un ancien personnage, Ismaël, qui était musicien. Là, ça se passe dans la musique classique aussi. Mm-hmm. Et je crois que vous êtes très mélomane, mais ne savez pas du tout jouer de musique.
Ah non, c'est ça. Non, mais je connais Grégoire Alzel, qui est le compositeur de mes films, et qui m'accueille à côté de lui pendant la composition des scores, des musiques de films, et qui me laisse intervenir. Et n'importe quel autre compositeur m'aurait fichu à la porte depuis longtemps, et Grégoire m'endure. Alors je suis à côté, et quand je l'exaspère trop, il me dit « Vas-y, chante-le, puisque tu es si malin, chante ton truc. » Alors du coup, je me mets à côté du piano, je chante, j'essaye de tapoter sur le piano, et oui, non, d'accord, ça c'est pas bon du tout, tu vas voir comment on fait. Et là, vous voyez, c'est dans le dialogue. Et après, quand on fait des morceaux de jazz, par exemple, il me dit « Vas-y, dirige. » Il me laisse rentrer dans la cabine avec les musiciens et les diriger. Vous voyez, je suis incapable de battre un orchestre, mais par contre, je peux expliquer au chef d'orchestre ce que je veux. Il m'a appris à lire une partition, et tout ça, je le dois à Grégoire. Donc, mes appétits de musique, ils sont comblés grâce au cinéma.
Et il le sait.
C'est votre choix musical, Arnaud Desplechin, le meilleur de soi-même de France Gall. Vous riez comme un enfant qui aurait fait un méfait.
Ben oui, bien sûr, c'était pour vous surprendre, pour vous choquer un peu avec une blague d'understatement ou de trucs comme ça. Et c'est une chanson que j'écoute tout le temps en ce moment, que je trouve absolument magnifique. Il y a un solo de musique, je ne sais plus si c'est une clarinette ou quelque chose qui est un petit peu regrettable. Mais France Gall, elle le chante merveilleusement. Et c'est une chanson que je ne connaissais pas. Et c'est Ondine Loriot-Diprévost qui m'a fait écouter cette chanson. Et alors, on cherchait une chanson comme ça. On cherchait dans les chansons populaires. Vous voyez des trucs qui vous trouent le cœur. Elle m'a dit mais tu connais pas le meilleur de... et voilà, et du coup j'ai pensé à elle, je pensais à elle et j'ai pensé à France Gall.
As young elephant I've been a rambling round and I never wrote a letter to my home, to my home, Lord, to my home. No, I never wrote a letter to my home.
Qu'est-ce qu'on entend, Arnaud Desplechin ?
On entend Timothée Chalamet, et qui va bientôt être rejoint par John Baez, et c'est la bande son de Complete Unknown, et qui est un de mes films, enfin vraiment un film que j'ai adoré cette année, que j'ai vu deux fois en salle. J'attends de pouvoir acheter le DVD pour le revoir encore.
James Mangold.
Voilà, de James Mangold, et qui est un film, et Barbaro étant le nom de l'actrice qui joue John Baez, et je crois qu'elle a eu l'Oscar du second rôle. Et c'est une histoire d'un homme c'est pas entre deux femmes. C'est un homme qui connaît des femmes, voilà, cet homme c'est Bob Dylan, et ça racontait tout droit, et je crois que plutôt que de raconter l'histoire d'une vedette, ça raconte ce que c'est d'être jeune, dans un monde qui est un peu vieux, et qu'est-ce que ça fait quand vous êtes jeune et que vous avez un talent que vous mesurez pas. Et vous le mesurez pas. Et le film est d'une simplicité de récit. C'est un film tout droit. Alors qu'aujourd'hui, les films, surtout les films d'auteurs américains, veulent être trop malins. Et celui-là est plain. Il raconte tout droit. C'est-à-dire, vous voyez des choses, des états du monde. Et c'est un film absolument merveilleux. La bande son de Chalamet est formidable, formidable. Et cette année, j'aurai une année très américaine. Parce que bon, mon goût il est formé par le cinéma américain, mais si je me dis c'est quoi les films que j'ai vus vraiment qui m'ont ébloui, il y a Complete Unknown que je trouve vraiment une merveille, il y a F1 que je trouve vraiment un très très beau film produit par Bruckheimer, il y a Phoenician Scheme qui est à mon avis un des meilleurs Wes Anderson depuis très longtemps.
Je suis d'accord avec vous, mais personne ne l'aime. Moi, j'ai adoré.
Personne ne l'aime, mais Benicio, mais enfin c'est bouleversant. Et comment puis-je ne pas être aimé, moi, puisque c'est un film pour dire que la biologie n'est rien et que la paternité c'est un don, et c'est l'enfant qui choisit son père, et c'est cette jeune fille qui va se choisir Benicio pour père, et ce sera sa rédemption. C'est filmé, c'est admirable ce qu'il a fait. Évidemment, le Paul Thomas Anderson. Alors du coup, j'ai honte parce que ça fait quatre films américains, mais c'est les quatre montagnes qui m'entourent.
Non, vous inquiétez pas, parce que là, on va parler d'une Française pour se rattraper. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis sûre que vous aimez aussi ce film sans le savoir pour cela. Une chose que j'ai découverte en voyant le film, c'est que Charlotte Rampling a le même regard que Benicio del Toro dans ce film.
C'est vrai, avec l'œil, la paupière qui
magnifique,
tombe légèrement,
profond,
bien sûr, bien sûr.
Alors, juste avant qu'on découvre une pièce de théâtre dont vous vouliez parler aux auditeurs, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous dites sur la musique, que je trouve très jolie, c'est que vous la pensez comme une consolation dans vos films.
Oui, mais surtout dans deux pianos, parce que vraiment, ils sont vraiment quand même... La vie est pas généreuse, quoi, avec eux. Et la musique, ça console, ça rattrape quelque chose. Vous voyez, la chanson de France Gall, elle me console. Vous voyez, quand j'ai des moments difficiles et tout ça, je l'écoute le soir avec mon ami et elle me trouve kitsch et je trouve ça formidable, ça me console.
Et vous n'écoutez pas de musique triste ?
France Gall, c'est un peu triste. Véronique Sanson aussi, des fois, j'écoute. Vous voyez,
Mais c'est entraînant.
Ah non, je préfère le Redoutable. Vous voyez, c'est une chanson très malheureuse. Ah oui. Ouais.
J'ai découvert Max Bruch grâce à vous. Compositeur allemand.
Ouais.
Comment vous avez choisi
Parce qu'il y a très peu de concertos dans le répertoire classique. Les concertos pour deux pianos, vous avez toujours une introduction de l'orchestre de 8 minutes avant que les pianos n'interviennent. Donc ça marchait pas dans ma fiction. Et donc il fallait aller dans le répertoire moderne. Et moi, le nom de Max Bruch, je crois qu'il a fait un Kol Nidre qui est encore joué dans les synagogues, qui était un peu connu. Lui était chrétien, mais il a fait des musiques pour les synagogues. Et le nom, j'avais ça dans des disques de que j'avais chez moi, etc. Et puis j'ai trouvé par internet qu'il avait fait un concerto pour deux pianos. Donc tout d'un coup, il y avait un signe d'amitié comme ça, très simple.
Alors, la pièce dont vous, que vous avez choisi à faire découvrir aux auditeurs, c'est « La guerre n'a pas un visage de femme » montée par Julie Deliquet au TGP.
Oui, j'ai vu ça la semaine dernière et j'étais absolument épaté. J'ai vu beaucoup de spectacles de Deliquet et celui-là lui tenait particulièrement à cœur, je crois. J'ai adoré le Welfare que j'avais vu à Avignon.
Oui,
et
elle est venue pour ça d'ailleurs. Oui,
tout à fait. Et que j'avais beaucoup aimé. Et là, chacune des femmes sont très très incarnées. Il y a une puissance de récit très forte. En fait, je l'aimais pour une raison extrêmement personnelle.
Elle a le même regard que Benicio del Toro et Charlotte Rampling.
Non, c'est encore plus intime que ça. C'est, voyez-vous, je lisais tous les livres de Svetlana Alexievitch. Je les ai tous lus. J'aimais ça beaucoup. Et quand j'ai lu La guerre n'a pas un visage de femme, je l'ai offert à Noël à ma mère. Je me suis dit que ça l'intéresserait puisque c'est le portrait de ces femmes russes qui sont rentrées dans l'armée et quand elles sont pendant ce qu'ils appelaient la grande guerre patriotique et quand elles reviennent, c'est la honte qu'elles aient fait l'armée quoi. Et le pays ne veut plus d'elles alors qu'il accueille les hommes en héros, etc. Et ces portraits de femmes, alors c'est Alexievitch, c'est elle qui avait écrit La fin de l'homme rouge, qui est un maître livre sur la Russie, etc. Et donc je l'avais offert à ma mère à Noël, elle avait lu, elle aimait beaucoup, et je pensais en allant voir la pièce que ma mère aujourd'hui, qui est très âgée, elle est encore en vie, donc j'ai de la chance, mais elle est très âgée, elle peut plus lire, elle peut plus vraiment lire. Et je me disais, je vais voir la pièce à sa place. Et donc ça m'a fait plaisir, et ça m'émeut de vous en parler, que ce soit, voilà.
Au cours de sa longue carrière, Alfred Hitchcock vous a présenté des personnages peu recommandables. Des voleurs, des maîtres chanteurs, des meurtriers. Parfois même, il a mis en scène de véritables génies du crime. Aujourd'hui, il vous présente un personnage tout différent. Un individu moyen qui mène une vie normale. L'élément nouveau dans le film, c'est que l'histoire a été véritablement vécue. Voici Manny Balestrero, musicien dans l'orchestre du Stork Club de New York. Il vivait dans un monde sans histoire et son travail terminé, il rangeait consciencieusement sa contrebasse. Chaque soir, il prenait le même métro, ouvrait le même journal et retrouvait chez lui sa femme et ses gosses. Oui, la vie de Manny s'écoulait paisiblement jusqu'à la nuit du 14 janvier 1953.
Dans la liste des films que vous avez sélectionnés pour le site de la Cinéthèque, Arnaud Desplechin, bon, alors grâce à vous, j'ai vu Tabou de Murnau, j'ai vu L'éventail de Lady Windermere de Lubitsch, d'après Oscar Wilde, un de mes chouchous, et Le faux coupable d'Hitchcock, dont on entend la bande-annonce. Je vous laisse nous en parler. Parce que
c'est un de mes films préférés d'Hitchcock en ce moment. C'est un film qui m'avait beaucoup aidé, que j'avais montré à Roche Dizem quand on faisait Rouper une lumière. Parce que Hitchcock, c'était le roi de la fantaisie, de l'invention, une fantaisie très anglaise, comme ça, pas américaine, très anglaise, sans de l'impertinence, de l'imagination. Et là, il a fait un film, un seul, dans sa carrière, où il a dit « tout ce que je filme est vrai ». Et dans le film, le juge est joué par le juge qui a joué. C'est vraiment un fait divers qu'il avait lu dans un article de journal et après il avait vu, il y avait une adaptation télé d'un docudrama, quoi, voilà. Et il s'est dit non, mais, et il jouait tout son catholicisme dedans, cette culpabilité catholique, sa femme qui devient folle, il va être l'image sublime de Fonda priant avec le double qui apparaît derrière, etc. La performance de Fonda me fait trembler comme celle de Roche Dizem. Sur des régimes différents, le film est une perfection formelle, mais le film est vibrant. Et puis c'est cet homme qui est incarcéré, comme on connaît l'histoire, Hitchcock incarcéré, avec son père qu'il dépose au commissariat quand il est enfant pour lui faire peur, comme ça. Et le petit Hitchcock qui est enfermé comme ça, dans une prison à Londres, il a très très peur. Et tout, il aura peur de la prison toute sa vie, parce que son père, pour le gronder, l'avait emmené en prison, comme ça. Et alors, il revit ses terreurs d'enfance dans cette histoire qui arrive à un homme mûr, et je vous dis, c'est la performance de Fonda, il est beau comme une femme, il a tombé par terre.
C'est vrai, il ne se défend pas beaucoup. Je vous laisse aller voir, en tout cas, chers auditeurs, la liste sur le site La Cinéthèque. Merci beaucoup Arnaud Desplechin.
Merci Eva.
Votre film De Piano est en salle depuis ce matin et cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Louise Tempero et Franck Olivard, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Élise Christophe.